Bonsoir à tous. Donc merci d'être là ce soir pour cette séance du cycle imaginaire des villes. Donc on a déjà pas mal voyagé après Dubaï, Reykjavik, Liverpool. Nous voici donc en partance pour Shanghai. Donc à travers deux regards d'artistes que j'ai le plaisir donc d'inviter ce soir. Donc une cinéaste, Justine Mal, et un artiste vidéaste, Shenzhen Liu. Voilà, donc on va donc la séance va se présenter ainsi. On va d'abord voir les films, bien sûr. Et alors avant ça, Luisa Prudentino, donc qui anime la rencontre, qui est sinologue, qui connaît vraiment sur le bout des doigts le cinéma chinois, va nous faire un petit historique, va vous redonner un petit aperçu de, va nous resituer, disons, Shanghai dans le cinéma chinois. Et donc 5-10 minutes de présentation. Ensuite, on verra les films. Et ensuite, il y aura une rencontre donc avec tous les trois. Et puis, vous aurez également la parole pour leur poser des questions. Voilà. Ben, je laisse donc la parole à Luisa. Voulez-vous vous asseoir? Oui.
Bien. Donc voilà. La ville qui est à l'honneur, on va dire ce soir, et du cycle imaginaire des villes. Donc c'est Shanghai, et on ne pouvait ne plus. Oui. Ah oui, c'est mieux, oui, oui. Ouais. Et on ne pouvait pas être vraiment encore plus dans le thème, puisque si pour toute ville, il est vrai que l'imaginaire collectif fait partie au même titre que la matière du paysage urbain que nous percevons, c'est vrai que pour la ville de Shanghai, l'imaginaire est vraiment indissoluble de sa façon d'être et de se présenter au monde. Alors, si toute ville a une dimension, une double dimension, matérielle et symbolique, Shanghai, finalement, l'a même dépassée, elle est allée vraiment outre cela, elle a même opté, depuis toujours d'ailleurs, pour un tissage complexe d'interrelations à la fois matérielles et abstraites, réelles et symboliques, qui ne cessent pas de se nourrir l'une de l'autre. Les pratiques artistiques qui contribuent finalement à la production de l'imaginaire de Shanghai sont d'abord envisagées sous l'angle de la littérature. Nous le savons très bien, de Rimbaud à Malraux, Paul Morand ou encore Albert Londres, ces écrivains ont été tous captivés par Shanghai, par son aspect, on peut le dire, exotique, et ou par son aspect de ville moderne, et par sa façon d'être finalement contradictoire, mais logique dans sa contradiction, puisque Shanghai, dès les années 30, ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Moi, j'ai une voix là. C'est bien ce qui me semblait. J'ai dit, ben, voilà. Donc, Shanghai, dès les années 20, donc au moment où vraiment le monde un peu l'a connu par son aspect de ville cosmopolite, avec les concessions étrangères qui s'y sont installées, finalement, on a connu surtout un peu le bastion, enfin l'aspect bastion colonialiste. On ne sait pas trop, en revanche, qu'elle s'est présentée aussi comme une ville révolutionnaire, puisque le Parti communiste, finalement chinois, est né à Shanghai en 1921. Donc, bastion colonialiste, creuset révolutionnaire, toujours cet aspect, cette dualité que Shanghai, ben vous allez le voir aussi dans les films d'aujourd'hui, a conservé jusqu'à ce jour. Mais finalement, l'art vraiment le plus adapté pour approcher cette relation intime entre réalité et rêve fut et est toujours le cinéma. Alors, depuis toujours, le Shanghai filmé par les cinéastes ne représente pas simplement la ville en elle-même, mais surtout la façon dont elle est perçue. Et donc, de ce fait, Shanghai n'a jamais cessé finalement de nourrir l'imaginaire des cinéastes qui ont perpétré le mythe jusqu'à nos jours, en l'adaptant au fur et à mesure aux fluctuations des humeurs de l'histoire. Alors, avant d'analyser avec nos invités de ce soir le Shanghai contemporain, je vais juste vous dire, mais vraiment très brièvement, les principales étapes qui ont caractérisé le parcours de Shanghai en tant que ville cinéma. Et cela, justement, ça va nous aider pour mieux comprendre comment cette ville évolue dans le contexte actuel et comment, finalement, les films de nos invités s'inscrivent dans cette thématique. Les premières images cinématographiques de Shanghai n'échappent pas à l'exotisme qui était apparu sur les écrans américains dès le tout début du 19e siècle. Nous sommes à l'époque en pleine période de péril jaune, donc Hollywood trouve finalement dans Shanghai, ne regarde que l'aspect exotique dans le sens vraiment négatif du terme et finalement Shanghai devient un peu le décor idéal pour véhiculer l'image d'une Chine de pacotille finalement. Mais en entremêlant quelques petites facettes de la réalité à l'exotisme, les réalisateurs attribuent à Shanghai, peut-être sans en être vraiment encore tout à fait conscients, la fonction de transmettre à l'imaginaire du public occidental une image d'elle-même équivalente à la représentation mentale qu'il en a. Il suffit de penser, pour vous faire un exemple, que le fameux film que tout le monde connaît, Shanghai Express, qui a été tourné par von Sternberg en 1932, et bien pensez-vous, le réalisateur n'avait jamais mis les pieds à Shanghai. D'ailleurs, il a avoué dans des interviews qu'il a eues après, que quand il a tourner ce film, il ne connaissait, je cite, virtuellement rien de la Chine. Donc vous voyez un peu les premières images, et pourtant elles ont alimenté voilà, un côté imaginaire, le Shanghai, le Paris de l'Orient, la ville pêchée, etc. Toutes des images qui ont nourri pendant des années l'imaginaire, du moins l'imaginaire occidental. Et puis, dans les années 30 et 40, alors que la Chine doit faire face à l'un des plus gros et douloureux conflits de son histoire, le conflit avec le Japon qui va durer entre 1937 et 1945, alors entre les mains habiles des cinéastes chinois cette fois-ci, eh bien Shanghai se libère un peu de ce côté Paris de l'Orient justement et devient plutôt l'emblème de la résistance du peuple chinois contre l'envahisseur japonais. Et alors, tout en gardant toujours le même décor, elle devient le berceau du nouveau cinéma réaliste de gauche de l'époque. Donc, voilà que c'est plutôt le côté creuset révolutionnaire qui s'impose sur le côté bastion colonialiste tel qu'il avait été représenté jusque-là. Et puis, avec l'arrivée du pouvoir en 1949 des communistes, donc de Mao Zedong, la tradition du cinéma urbain est vue finalement comme un vrai symbole de la bourgeoisie et alors sera éradiquée. Et c'est à partir de ce moment-là que Shanghai va connaître une longue période de châtiment. Elle va disparaître de l'écran, du moins de l'écran chinois, mais côté occidental, parce que l'Orient et l'Occident se sont toujours un peu renvoyés la balle en ce qui concerne Shanghai. Et finalement, les images ont plus ou moins, bon, selon les époques, mais elles étaient plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire que quand Shanghai avait un aspect un tout petit peu plus donc de ville respectable, si je puis dire, révolutionnaire et tout ça, les Américains, Hollywood, l'a quand même laissé assez tranquille à respecter cette image-là. Mais à l'époque donc où Shanghai disparaît des écrans chinois, elle ne disparaît pas trop des écrans occidentaux, mais finalement, il y a encore une nouvelle hystérie, si je puis dire, qui n'est plus identifiable en tant que pays jaune. On peut carrément parler de pays rouge dans les États-Unis en pleine période macartiste. Donc, vous voyez comment Shanghai a toujours été le baromètre, finalement, des tendances politiques nationales et internationales. Après la période maoïste, Shanghai ne va pas réintégrer tout de suite l'écran. Il faudra attendre la fin des années 80. Il faudra attendre que la Chine digère la période extrêmement douloureuse de la révolution culturelle qui aura duré 10 ans. Et puis, quand elle fera à nouveau surface, donc sur les écrans aussi bien chinois qu'occidentaux, eh bien, elle aura perdu toute mystification à son égard. Donc ce sera une ville beaucoup plus adulte, une ville plus vraie, qui va renaître, si je puis dire, des cendres de cette stratification de multiples représentations. Qu'en est-il alors aujourd'hui de cette ville? Eh bien, Shanghai et le cinéma connaissent d'importantes mutations. Parallèlement à cette dilution de la ville dans le entre guillemets paysage urbain, le cinéma se dilue dans le paysage audiovisuel et les représentations à l'écran se renouvellent à la même vitesse finalement à laquelle on voit se transformer la ville. Voilà donc que le cinéma véhicule finalement les images d'une ville en plein développement où se cristallisent les rêves, les angoisses, les frustrations, les espoirs de ces citoyens face à une modernité forcenée. Et donc, on découvre, et c'est l'argument, entre autres, des projections de ce soir, on découvre comment c'est pas toujours évident d'avoir une place confortable dans cette ville qui change sans cesse. Et le rêve, alors, peut très vite même basculer en cauchemar pour tous ceux qui, touchés de plein fouet par cette transformation trop rapide, ont perdu leur repère. Quelle est alors la place de l'humain dans ce contexte? Comment la préserver dans cette accélération vers la modernité qui rend la réalité de plus en plus dure et de plus en plus objective? Eh bien, ce sont les questions, entre autres, que se posent justement nos deux invités de ce soir, Liu Jianchen et Justine Mal, donc deux réalisateurs qui ont essayé d'apporter justement une réponse chacun à sa manière et selon son propre style. Donc je vous les présente vite fait avant de passer aux projections. Liu Jianchen, donc vous êtes né à Shanghai, donc vous connaissez très bien cette ville. Vous avez obtenu votre diplôme de maîtrise en peinture à l'école des Beaux-Arts de Shanghai, justement. Puis vous êtes venu en France pour un master à l'école nationale supérieure d'art de Nice à la ville Arson. Vous avez fréquenté le studio national des arts contemporains du Frénois. Et dans les films que vous allez nous montrer ce soir, vous avez porté vraiment un regard personnel et très sensible et très original donc sur la transformation de Shanghai. Et puis Justine Mal, donc vous êtes française, vous avez étudié aux États-Unis et en France à la Sorbonne, donc vous êtes consacrée à la traduction et au documentaire et vous avez tourné plusieurs documentaires dont celui de ce soir, Carnet de Shanghai, tourné donc en 2003. Donc les deux caméras de nos deux invités se sont tournées vers Shanghai pour esquisser des portraits de ville, comme je vous disais, chacun à sa façon. Nous allons commencer d'abord par le film de Justine Malde, donc Carnet de Shanghai, puis nous allons passer à la trilogie que Liu Jianchen a consacrée à Shanghai, une trilogie qui couvre finalement trois années vraiment clés du nouveau millénaire entre 2005 et 2007, et donc une trilogie qui commence par Shanghai Express en 2005, Shanghai, tournée en 2006, Under Construction en 2007, qui complète donc cette trilogie. Et puis nous allons voir aussi Avenue de Shanghai, un autre court-métrage qui est tout à fait récent puisqu'il est de 2012. Nous allons débuter les projections de ce soir donc par Carnet de Shanghai de Justine Malde. Vous voulez dire quelque chose avant la projection ?
Je voulais juste dire que j'étais très très honorée de montrer ce film ici, et de ce film n'a jamais en fait été montré. Et je trouve qu'il s'inscrit très très bien dans évidemment dans cet intitulé l'imaginaire des villes, parce que c'est vraiment vraiment inscrite dans cette tradition de fascination littéraire et cinématographique pour une sorte de Shanghai imaginaire, donc et sans même avoir tellement l'ambition de d'aller jusqu'à la réalité de la ville. Enfin voilà, c'était vraiment une sorte de rêve, quoi. J'ai rêvé la ville. Voilà, donc c'est un très bon cadre pour ce film. Et juste que je dise que ça a été fait dans avec des conditions techniques très très mauvaises, donc c'est la qualité de l'image va pas être terrible. Voilà.
D'accord, voilà, donc on commence par Carnet de Shanghai, puis sans transition, on va passer aux quatre courts-métrages de Liu Jianchen, et puis on se retrouvera après la projection pour débattre ensemble avec nos deux cinéastes. Bonne projection et à tout à l'heure. Alors, on va commencer à discuter un peu. Je vais vous poser quelques questions et puis on va entendre bien évidemment aussi le public. Alors, je voudrais commencer par ordre de projection. Donc, je voudrais commencer par poser des questions à Justine Malde. Donc, je voudrais partir du début finalement de votre film, là où vous avez dit que vous êtes parti finalement à Shanghai avec des images dans la tête, des images finalement qui étaient tirées de la condition humaine d'André Malraux en ce qui concerne la littérature, et puis en ce qui concerne le cinéma, de quelques images du film Shanghai Gesture. Et donc, quelque part, si je comprends bien, Shanghai était avant que vous nous rendiez sur place, était finalement un objet qui était complètement, purement imaginaire pour vous. Donc, comment s'est faite, alors, dans ce cas-là, cette rencontre avec votre imaginaire, qui, finalement, était un peu le résultat de toutes ces images de littérature et de cinéma, et la réalité que vous avez rencontrée sur place?
Je pense qu'elle s'est pas faite déjà. Je pense vraiment que je suis allée là-bas avec une sorte d'angle et en fait je cherchais tout ce qui avait trait à ce que j'avais lu, ce que j'avais vu, et je cherchais les concessions, les immeubles, d'une certaine façon, je cherchais pas tellement la confrontation avec la réalité de la ville, je crois. Je suis un peu, je pense, restée un peu prisonnière du mythe, mais aussi par impuissance, enfin, je veux dire, par sentiment évident de mon impuissance quand je suis arrivée là-bas à saisir la moindre chose de la réalité de cette ville. Enfin, je veux dire, c'était tellement Déjà, en tout cas, en 2003, quand on parlait pas chinois, on pouvait pas aller très loin. Donc, je me suis un peu fixé un programme très précis. Et puis, je suis pas trop sortie de ça, quoi. Mais après, c'était.
En fait, finalement, moi, ce qui me frappe aussi de ce film, c'est un peu, il porte bien son titre, puisque vraiment, avec votre caméra, un peu en guise de stylo, hein, vous avez un peu pris des notes, finalement, sur quelque chose, et sur quelque chose qui vous frappait à l'instant, j'imagine que vous êtes, vous êtes laissé un peu conduire, vous avez flâné, et puis voilà, vous avez fait un peu une promenade, et puis finalement... ce qui me frappe, c'est un peu cette façon de se présenter de Shanghai qui est finalement très poétique quelque part, et on ressent un peu ces images, l'humain qui est là, etc. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a un contraste? Si après, en plus, on voit un parallèle de votre film avec les films de Liu Zhenzhen, est-ce qu'il y a un contraste finalement avec ce traumatisme urbain que la ville est en train, a connu en 2003, mais maintenant ils se sont arrêtés un tout petit peu après l'escalation qu'il y a eu jusqu'en 2010 pour que la ville puisse se présenter vraiment dans sa plus belle image pour l'exposition universelle. Est-ce que donc il n'y a pas un contraste avec cet aspect poétique qu'on voit vraiment très très bien dans votre film et ce traumatisme urbain que la ville a quand même énormément vécu?
Déjà, en fait, la poésie, c'était un peu mon seul moyen d'accès un peu à la, la seule interface entre moi et la ville, c'était juste les visages, une espèce de langage un peu universel, de langage poétique universel. Donc c'est pour ça que je me suis un peu focalisée, et aussi mon lyrisme personnel. Est-ce qu'il y a un contraste? Oui, un contraste terrible, quoi. Mais moi, presque d'une certaine façon, j'ai complètement évacué le côté tentaculaire, apocalyptique de cette ville, parce que c'est vrai que ça m'a vraiment. Moi, j'ai eu une expérience assez mitigée là-bas. Je me sentais pas très bien. Et c'est vrai que je retrouvais un peu mes marques avec cette autre réalité qui est, elle, assez archaïque. Mais enfin, c'était un peu facile, quoi, l'opposition entre la modernité apocalyptique et l'archaïsme poétique, la poésie. Donc, j'avais pas non plus envie de tomber là-dedans, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut.
Mais vous étiez pas, une expérience mitigée parce que vous étiez bloqué par la langue ou parce que vous aviez aussi vous avez été saisi par le.
Oui, je peux pas.
Rattrapé par votre imaginaire ou.
Non, mon imaginaire, c'était vraiment le truc un peu rassurant, le cadre rassurant, le mythe. Bon, il y a cet aspect-là de Shanghai qui est aussi une réalité, en fait. Et puis après, il y a cette autre réalité qui m'est étrangère et que qui était assez angoissante.
Donc peut-être que quelque part par votre propre angoisse, vous avez renoué avec les angoisses des habitants sur place.
Oui, c'est possible.
Et une autre chose qui m'a frappée, c'est que vous dites au début et à la fin, donc une fois que la boucle finalement bouclée, vous dites que vous demandez si jamais vous arrivez à vous faire comment faire à réaliser une idée de Shanghai en partant de quelques images éparpillées. C'est la question que vous posez au début, c'est la question que vous posez à la fin. Est-ce que ça veut dire que finalement, cette image-là, vous n'avez pas réussi à la faire, ou
finalement, vous l'avez faite, cette idée-là.
Non, non, je
à la fin du tournage.
Non, non, non. D'ailleurs, au début, c'était un peu un truc rhétorique. Je pensais que c'était mon monteur qui trouvait que c'était une idée bonne de répéter la même chose. Mais je me rends compte que c'est évident que c'est une sorte de constat d'échec. Mais c'est aussi, c'est pas un constat d'échec purement négatif. C'est aussi que j'étais très influencée par des documentaires, dont un documentaire de Louis Malle, mon père, L'Inde fantôme. Dans lequel il va en Inde et il se rend compte que tout ce qu'il peut filmer, finalement, c'est son incapacité à comprendre. Enfin, donc moi, j'étais très dans cette perspective, quoi. Voilà, ça me semblait aussi un fil. Donc c'est filmé une sorte de d'impossibilité à filmer, quoi. Enfin...
Vous êtes retournée depuis ?
Non, non, non. J'avoue que je ne sais pas si j'ai très envie.
Enfin, une expérience positive quand même, quelque part.
Oui. Je vous dis, je pense que je suis restée un peu trop prisonnière de mon de cet imaginaire du mythe pour vraiment pour aller vraiment à la rencontre de la ville. Mais je sais pas si c'était positif. Enfin, je veux dire, c'était passionnant, mais. J'ai tellement eu le sentiment de pas comprendre et tout ça que il y a un moment c'était quand même
assez dur.
Ouais.
Alors en revanche on ne voit pas, enfin là on a parlé de mythe, on a parlé de cet aspect un peu poétique de cette de l'humain quelque part qui est là. Alors nous sommes dans une perspective un peu différente dans avec les films de Liu Jianchen. Alors par le style et aussi un peu par le contenu. Alors, je voudrais partir un peu d'abord de vos trois films, donc de cette trilogie que nous avons vue. Alors, nous sommes partis finalement par ce film Shanghai Express, le premier, qui met d'emblée l'accent sur cette frénésie constructrice que subit Shanghai. Donc vous partez de là et puis en accéléré, on arrive au deuxième film qui est de la continuité finalement du premier et qui nous apporte déjà de la logique complètement destructrice du premier. On va au deuxième où il y a un monde qui est en train de se détruire, un nouveau monde qui est en train de se construire, et puis finalement nous arrivons avec le tout dernier, Under Construction, un peu, qui est l'aboutissement de tout ce travail que vous avez accompli sur Shanghai. Nous déambulons vraiment dans un monde complètement fantomatique, un monde qui est peuplé de ruines, de maisons abandonnées, etc. Donc finalement on retrouve là cette dualité qui est propre à Shanghai. On en a tout le temps entendu parler, ça peut sembler banal, mais finalement tout se joue un peu là-dedans, la modernité, la tradition, et puis le contraste entre la vision un peu idéalisé de Shanghai, du Shanghai finalement nouveau, tel que on le voit dans ce deuxième film, et puis ces quartiers entiers délabrés, etc. C'est un peu le fil rouge de toute la trilogie. Alors, ma question est simple. Vous êtes Shanghaïen. Comment un Shanghaïen de pure souche, comme vous, se reconnaît dans le Shanghai d'aujourd'hui, comment les habitants vivent cette frénésie, et comment on peut vivre dans une ville qui change constamment de visage.
Je ne connais pas vraiment des gens qui vivent dedans aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal d'années que je suis en Europe. Je retourne de temps en temps, mais je ta part avec mes amis, je demande parce que au départ, quelques années, je suis retourné, c'est toujours un choc pour moi, que la ville qui change tellement rapide. Je demande à eux, qu'est-ce que vous trouvez, pour eux, c'est normal. En fait, comme on est dedans, on ne trouve pas que ça change. C'est très normal qu'il y a un tour qui se bâtit, il y a quelque chose qui change. Donc, on n'arrive pas à se communiquer, enfin. Mais c'est peut-être comme pour moi aujourd'hui, je retourne et je vois que ça change. Ça donne toujours un choc, mais ce n'est pas comme au premier que j'ai fait le premier film, le deuxième film, qui est vraiment tellement un choc parce que je connais mon quartier, et je connais presque tous les tours, parce que quand j'étais petit, je pense jusqu'à 20 ans ou adolescent, il y a le plus haut tour, s'appelle Guoqi Fantian, c'est un hôtel pour étrangers, un luxe, de peut-être 18e étage ou 20 étages. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, les tours de 20 étages, peut-être il y a 10 000, on ne peut pas compter. Donc, après, en fait, quand j'ai fait les études en France, à la Villa Son, j'ai vu des images par Internet. J'ai recherché Shanghai, j'ai vu des tours, des nouveaux tours. Mais je me suis dit, je ne le connais pas ce tour, c'est nouveau. Après, je suis retourné, j'ai vu tellement de tours, je suis perdu. Donc, du coup, que je fais un film, le premier film, première vidéo que vous avez vu, c'est tourné dans un immeuble, dans un appartement d'un ami qui est à 56e étage. Qui donne une vue à la rivière. C'est un appartement habitation. Et je filmais toute la journée en haut, en accélération. Du coup, que ça me donne une impression de jouets, tout est comme un jouet. Que la ville, ça bouge. On voit aussi la pollution, comme aujourd'hui, il y a un grand problème de pollution en Chine. C'est tous les jours, c'est PM2.5. On dit à Pékin, si vous voulez fumer, juste ouvre la fenêtre. Et puis à Shanghai, il n'y a pas longtemps, on trouve dans la rivière plus 10 000 de porcs morts, des cochons morts. On dit, si vous voulez boire une soupe de porc, juste ouvre la robinet à Shanghai. Donc, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui en Chine pendant le développement, pendant ça évolue.
Et je me souviens avoir lu une interview de vous dans laquelle vous disiez que vous avez vraiment l'impression que Shanghai ne semble pas vouloir d'histoire. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Est-ce que c'est le fait que Shanghai finalement se libère vous de nous dire si c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais est-ce qu'il renonce un peu à son histoire? Est-ce qu'il n'a plus de passé? Comment vous pouvez exprimer cette impression, comme vous avez dit?
Je pense que j'ai dit ça fait longtemps. C'était un choc pour moi quand c'était 2005 ou 2000. Mais c'est toujours comme ça. Parce que, par exemple, il y a les anciens bâtiments. À Shanghai, ils s'appellent Shikumen. À Pékin, ce sont des Sihuyuan. On ne trouve plus à Shanghai. On trouve encore des murs, mais ils sont vidés tous les habitants dedans. elle construit des bars, des restaurants européens pour des c'est, le prix c'est assez cher, hein, c'est même plus cher, c'est plus cher que Paris. Donc c'est un cas de bière, c'est très cher en Chine. Pour des gens riches, pour des étrangers, des tourismes, des touristes. Du coup, oui, on voit un décor, on voit un décor de mur. Oui, c'est du verre mur qui est bien conservé, mais il n'y a plus de, il y a plus de vie. Il y a, en fait, je voudrais dire plutôt comment on peut avoir un développement civilisé. Comment on traite des gens qui habitent dedans, comment on traite des gens, ça veut dire comment on traite des gens qui tombent dans la rue, ou comment on traite des gens. Par exemple, j'ai vu un article, ça fait quelques jours, qu'il y a un vieux monsieur qui est tombé au marché. Il y a plein de monde parce que c'est un marché de légumes. Et puis, comme la passage c'est assez petit, il est tombé. Il y a une vidéo qui a filmé, donc vidéo surveillance. Il y a 178 personnes qui sont passées au sous. Personne qui le reprend. En fait, comme j'ai une amie à Paris, elle est tombée par terre. Bon, c'est différent. Bon. Ça rend tellement triste de voir ça, comme que c'est mon propre pays. Ouais. Même en fait, pour le bâtiment aussi, en fait, il y a beaucoup de choses qui passent. Quoi. Ouais.
Avant de continuer, je voudrais peut-être donner déjà un peu la parole au public, si vous voulez déjà poser quelques questions à nos deux invités sur les films que nous venons de voir.
Bonsoir. Je m'excuse, on m'avait dit, enfin j'avais lu 20 heures, moi je suis arrivée à moins le quart, et puis bon, j'ai vu heureusement les petits documentaires, les petits films, j'ai pas vu le film de Madame, et je voulais juste dire que ma mère, qui était née en 1911, a habité Shanghai pendant 2 ans, en 1928, 29 ou 27-28, elle avait 10 ans, et elle était à la concession française. Et alors elle m'avait raconté, puis j'ai noté, et elle disait quand même que c'était très sale, déjà, elle disait que c'était sale. Évidemment, tous les Chinois, ils n'avaient aucun contact. C'était parce que l'histoire, c'est ça aussi, c'est qu'il y avait la colonisation quand même. Shanghai, il y avait les Britanniques, il y avait les Français, il y avait les Japonais, je crois, je ne sais plus. Et alors, c'était cercle fermé, bien sûr. Et puis, oui, elle racontait que tous les Chinois étaient habillés avec les longues robes bleues. Qu'il y avait les marchands d'eau, les porteurs d'eau, le thé, enfin, tout quelque chose qu'on peut imaginer en Inde, encore qui existe en Inde. On dirait qu'en Chine, ça n'existe plus. C'est ça?
Vous voulez dire quelque chose?
Je n'ai pas vraiment compris que c'est quoi qui n'existe plus, c'est la salité ou...
Non.
L'histoire.
Les petits métiers.
Ah, les petits métiers.
Ce qu'ils
faisaient. En fait, je pense qu'il y a certains quartiers, c'est vraiment ça n'existe plus. Ils sont tous déplacés dans les tours, par exemple. Mais quand même, il y a quelques. Je vois quand même, mais c'est rare. Il y a des marchés encore, ça existe. Moins en moins, quoi. C'est vraiment. Ouais, très peu maintenant, aujourd'hui, à Shanghai. Des petits marchands. Oui, ça, oui c'est toujours. Des marchands de. Oui, ça dépend de quel marchand, oui.
Elle me racontait aussi les
Personnellement, je ne connais pas les hommes. En fait, je suis né très tard.
Oui, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que ce que vous disiez, effectivement, votre maman était vraie dans le sens où il y avait tous ces petits métiers, etc. Quelque part, quand vous allez vraiment dans les petites ruelles de Shanghai et tout ça, on le retrouve encore, et d'ailleurs on l'a vu dans le film, bon vous l'avez pas vu, mais enfin on l'a vu dans le film de Justine Malle, dans les marchés, comme disait Jiang Zhenliu. Bon, c'est vrai que, comme tout pays qui a traversé un peu la révolution industrielle, bon, tout ça, plus on va vers la modernité, plus forcément il y a on rentre dans une réalité plus objective, et alors vers une stratification des métiers, de tout le reste, et vers celle qu'on appelle aujourd'hui la globalisation. Ce qui frappe davantage pour la Chine, c'est vrai que c'était un tissu social extrêmement fort, hein, qui a été entretenu même pendant les années du communisme, donc qui était entretenu pendant les années du maoïsme plutôt, parce que le communisme, même si ça ne ressemble plus tellement à ce qu'on appelle le communisme, mais enfin, la Chine est encore un pays communiste, donc la collectivité était encore à la base, et alors le fait de le principe des trois ensembles, travailler ensemble, etc., il était très très présent. Alors ce qui frappe aujourd'hui, c'est qu'effectivement ce côté-là n'y est plus. Donc, c'est vrai que ça frappe davantage par rapport à d'autres pays, puisque chez nous, enfin en Occident, tout ça a changé de façon déjà progressive, et même si ça a commencé avant, et à Shanghai, et dans la Chine, et en Chine en général, c'est arrivé tout d'un coup. Et c'est ce qui frappe aussi un peu les habitants qui, eux, étaient vraiment habitués non seulement à travailler ensemble et à faire tous ces petits métiers, mais à vivre ensemble. Et alors aujourd'hui, devoir quitter les petites maisons, comme disait Jen Chen, les Shokumen ou les Sehoyuen à Pékin, etc., où les gens vivaient en communauté, et devoir se retrouver dans des tours qui sont assez impersonnelles et tout ça, ça frappe. Nous, bon, ça peut nous sembler, ce qui nous frappe, c'est la rapidité à laquelle ces changements sont arrivés, mais les Shanghaïens et les Pékinois sont, et les Chinois en général, sont frappés par ce mode de vie qui a complètement, complètement bouleversé leur existence. C'est ça, effectivement, qui a changé.
Enfin, moi, je pense qu'on est quand même devant une attaque des droits fondamentaux assez majeure, et je trouve que votre film Under Construction doit vraiment être passé partout et partout et partout pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, l'attaque des droits humains basiques, de la sécurité, du droit à un minimum de vie tranquille. Quand on voit cette femme âgée qui dit que sa vie c'est pire que celle d'un clochard, qui a plus d'argent, qui ne peut pas partir parce qu'elle a plus d'argent, qui n'a comme vision que des tas de cailloux, et des horreurs de ruines autour d'elle. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, quelque part. Alors, on sait bien qu'en Chine, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et j'imagine que tous les gens de Shanghai n'ont effectivement pas pu s'organiser contre tous ces promoteurs qui ont décidé de leur prendre leur petite maison. Mais quand même, ça fait réfléchir. Alors, merci beaucoup, monsieur, d'avoir fait ce film. J'espère que vous le porterez dans plein d'endroits, en France et ailleurs, pour qu'on comprenne, parce qu'en France, on ne sait pas ce que ça veut dire encore, pour l'instant, l'attaque des droits fondamentaux. On y viendra peut-être. J'espère que non, mais vous, vous savez ce que c'est. Et je trouve que c'est terrible. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des gens sans toit. Je suis d'accord. Il y a des gens sans toit, il y a des gens sans papier, il y a des gens... Je suis tout à fait d'accord. Mais là, on est dans... Oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais attendez, je fais partie des militants. Attendez, madame, bien sûr qu'il y a des atteintes fondamentales. Mais à ce niveau-là, c'est... Bon, voilà. On sait que ça existe aussi en Afrique. On sait que ça existe partout. Mais votre film doit être porté partout. Merci beaucoup.
Comment vous avez réalisé ces interviews aux personnes que vous avez, donc justement qui étaient, comme disait Madame, qui ont été, qui ont perdu dans le sens où ils ont été chassés de leur maison. Comment vous avez réalisé ces interviews et après comment ça s'est fait ce travail justement de mixage quelque part des images virtuelles en 3D et des images documentaires.
Les interviews ne sont pas des interviews organisées, c'est vraiment tombé comme ça. Parce que j'ai promené dans les ruines pour faire des photos. Parce que la vidéo est travaillée par beaucoup de photos, qui est composée par beaucoup de photos. Et la vidéo, bien sûr. Du coup, j'ai promené dans le quartier presque tous les jours. J'ai rencontré un monsieur, il m'a vu, il m'a demandé si je suis un journaliste, j'ai dit oui. Donc il m'a dit, il est très content, il m'a dit, ah, venez, suivez-moi, je vous montre comment ma mère, elle est là. Donc je le suis, la caméra qui tourne, quand il a poussé la porte, c'est la première image que vous avez vue. Donc c'est comme ça. Mais le lendemain, je me suis dit, le lendemain je vais encore le filmer. Et je suis repassé le lendemain, mais la dame elle voulait plus parler, rien du tout, silencieux. Parce que j'ai bien compris, au départ elle était vraiment en colère, elle pleurait dans le lit. Mais après, elle a eu un peu. Si moi, je suis vraiment pour l'aider ou c'est enregistré par l'État ou elle ne me connaît pas. Donc, ça peut être dangereux pour elle. Comme le couple de démolition, le bureau de démolition, parfois très violent. Ouais. Le monsieur, pareil, c'est par hasard. Je l'ai vu devant sa porte qui était en pansement. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et puis pour les mixages, les mixtes, parce qu'au départ, je voulais faire un travelling. Pour ce film, mais c'est un travelling presque impossible. Bon, c'est un travelling impossible que je fais, qui traverse la quartier avec les fenêtres, tout ça, la vidéo. Enfin, je fais un travail de composition avec mes photos là-bas. Bon, ce sont des photos vraies. Et ce sont des vidéos que j'enregistre comme ça. À la fin, c'est aussi une vidéo que j'ai rien touché. C'est un cru. C'est un travelling vrai à la fin. Qui montre en face de la rivière. Comme le dernier film aussi, il n'y a aucun effet. J'ai rien touché. J'ai installé une petite caméra surveillance dans un roue. Ça tourne. Ça s'appelle Avenue du Peuple. C'est une place très sensible. C'est parce que le mairie est là. Que c'est inaccessible parce que quand je suis venu en France, je me suis dit oui, qu'on peut rentrer dans la mairie, c'est incroyable. Je me suis dit ok, je suis vraiment arrivé dans un pays communiste. Je suis très content parce qu'il y a assurance vitale pour moi, pour l'étude c'est gratuit, c'est vraiment quelque chose d'être humain, qu'on sent vraiment, c'est un paradis. Mais Mais bien sûr, aujourd'hui, je trouve que c'est pas vraiment comme ça. Mais en Chine, c'est vraiment cruel parce que je me souviens très bien quand je fais l'école la première année, j'ai payé le frais d'inscription, ça coûte même pas 5 euros. Quand la quatrième année, je fais les études, je dois payer 600 euros. Il y a un changement énorme. Et aujourd'hui, pareil, que si on est pauvre, on ne peut pas aller à l'école. Ouais.
D'autres questions? D'autres impressions sur les films ou si vous voulez. Alors, j'ai une autre question. Alors, on se doute que ces films, vous n'avez pas pu les montrer en Chine, forcément. Vous êtes plutôt vidéaste, mais en fait, par rapport au sujet de vos films, vous vous rapprochez de celle qui est la production chinoise contemporaine indépendante aujourd'hui. Donc, une des films qui sont qui traitent un peu les sujets qui fâchent, si je puis dire, et qui forcément ne peuvent pas être montrés en Chine et sont montrés ailleurs. Alors, est-ce que vous trouvez regrettable le fait que vous ne pouvez pas montrer vos films justement à votre public, au public shanghaïen et chinois auquel il est destiné? Est-ce que vous pensez que la situation éventuellement puisse évoluer, et surtout en ce qui concerne le cinéma urbain, parce que le reste est déjà une situation différente?
Oui, c'est dommage que j'ai pu en construction et il n'ait jamais montré en Chine, parce que pour la raison sécurité du pays, c'est comme l'artiste AES censuré, le Japon qui est encore dans la prison. L'État, il ne veut pas montrer. Par exemple, mes amis commissaire, il ne veut pas montrer ce film parce que c'est risqué pour eux. J'ai vu beaucoup d'expositions, j'ai vu beaucoup d'expositions de mes amis que ça ferme le premier jour pendant le vernissage. Que c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sensible. Pendant le vernissage, il y a toujours quelqu'un qui est inconnu. On ne sait jamais qui c'est, mais il est tout le temps là. Tous les vernissages. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il retire le filet, l'électricité. C'est fini. Ouais. Donc c'est risqué. Ouais.
Alors, je voudrais un peu renouer avec l'imaginaire justement de la ville. Alors, nous avons l'impression que pour les cinéastes occidentaux, le mythe un peu de Shanghai réside un peu dans toutes les images que nous avons eues à travers, comme on le disait, la littérature et le cinéma des années 20, des années 30. Donc, ce côté mythique vraiment du Shanghai des années 30. Pour les cinéastes contemporains, on a plutôt l'impression que la vraie révolution, l'autre moment fort, on va dire, qui renoue avec l'imaginaire de Shanghai est plutôt la révolution du béton, qui s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça, alors et qui continue de se faire. Alors, je voudrais avoir un peu vos sentiments justement de cinéaste occidental et de cinéaste chinois vis-à-vis de cela, vis-à-vis de ces deux, finalement, de ces deux points forts de l'imaginaire collectif occidental. Ce mythe des années 30 par rapport à la révolution du béton, qu'est-ce qui est plus intéressant pour un cinéaste, qu'est-ce qui évoque, qu'est-ce que... Voilà, je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus, étant donné qu'en plus vous avez beaucoup évoqué dans votre film cela.
Bah, moi, forcément, ça m'intéresse plus le mythe, comment dire, historique un peu, même si j'ai une certaine, culpabilité à avoir cette nostalgie, parce que je veux dire, comme vous disiez, c'est quand même un passé colonial, et la fascination pour un passé colonial, c'est quand même un peu, c'est vaguement gênant. Alors voilà, il faut faire la part des choses entre ce que se passait justement, ce côté des petits métiers, tout ça, et le voilà, enfin. Moi, je sais pas ce que. J'ai l'impression que c'est assez superficiel finalement ce mythe, c'est sur quelque chose d'un peu sulfureux, d'un peu comme vous disiez le péché. Voilà, est-ce que quel est son sens quoi, enfin à ce mythe, quel est sa à part l'exotisme quand même qui est l'ailleurs, c'est donc oui, c'est, ça a quand même une profondeur. Donc moi, de ça c'est sûr, je préfère complètement cet aspect-là. Après la révolution du béton, ce mythe plutôt réel, mais quand même qui est quand même de l'ordre du mythe, qui est quand même exact. De l'ordre de Babel, de l'Apocalypse, de tout ça. Voilà, c'est quand même un mythe un peu angoissant, donc c'est sûr que mais c'est quand même fascinant aussi, quoi. Enfin, après moi, en tant que je sais pas cinéaste, ça m'intéresse pas, quoi. Mais je veux dire, je trouve intellectuellement, je trouve ça tout à fait intéressant.
Jeanne, vous voulez ajouter quelque chose?
De chinois et occidentaux.
Ouais.
Bon, je suis né dans une maison française, je peux dire. C'est dans une concession française. Mais la famille, on habite dans une chambre, dans une petite chambre. Mais je suis informé que toute la maison, on a beaucoup de voisins. On a 5-6 familles de voisins dans la maison entière. Mes parents, mes grands-parents m'ont dit que la maison entière c'était à nous. C'est le communiste qui arrive. Du coup, quand on peut habiter maintenant juste dans la petite chambre, je grandis là. Et puis, je suis arrivé en Europe. Ouais. Je regarde. La maison est encore là, n'est pas détruite parce que c'est la concession française, on garde quand même quelques ports de maison pour des touristes. Pour une vision que Shanghai est variée.
Voilà.
Ouais. On commence quand même de conserver quelque chose par rapport il y a quelques années qui était fou, que il détruit tout. Mais quand même à Provence on voit encore il y a des endroits vraiment c'est très très dommage, ouais. Même aujourd'hui à Shanghai mes parents ils sont maintenant en banlieue, ils voulaient construire un train magnétique devant la maison à 25 mètres devant. Il roule 400 km par l'heure. C'est un train allemand. En Allemagne, il y a une règle que ce train, il faut éloigner des bâtiments pour 200 mètres de distance. Mais en Chine, ils ont dit officiellement modifier la loi, modifier cette règle. En Chine, c'est 25 mètres. Du coup, que mes parents, les voisins, ils voulaient manifester, mais on ne peut pas manifester. On ne connaît pas, on ne comprend pas, on ne peut pas manifester. Il n'y en a pas ce mot. Si on ne cherche pas Google, manifestation en Chine, c'est censuré. Des mots comme ça. Par exemple, j'ai un ami, ils ont un groupe c'est une bande de musique, ça s'appelle Libéral, quelque chose dedans, Libéral quand groupe. Et puis, il m'a dit qu'il ne peut pas être dans le journal parce que Libéral, c'est censuré. Donc, il y a quelques mots qui. Bon, c'est Internet. Donc, mes parents, ils voulaient, avec mes voisins, ils voulaient manifester. Mais on ne peut pas, donc, ils le font promener. Promener, juste promener, sans rien, juste promener. À la place que je filmais à la fin, le dernier vidéo qui tourne. Mais tout de suite, il y a des civils, il y a des polices qui arrivent avec des camions et ils le prennent dans le camion et envoient à banlieue de 50 km de Shanghai et le laissent sortir là-bas. Qu'on ne peut pas manifester, on ne peut pas parler, on n'a pas le droit, on n'a pas... Mais pour moi, ici en France, on manifeste tout le temps. Là, pour la raison homosexuelle, mais quand même, on manifeste trop parce que pendant pour ça, on peut parler pendant 8 mois sans problème de chômage, sans problème de les autres, juste ça, de homosexuel. Mais c'est vraiment un contraste pour moi.
Vous avez vous avez encore l'intention de travailler sur Shanghai ou de toute façon sur les problématiques qui touchent l'urbain ou vous êtes en train de faire d'autres travaux actuellement?
Oui, l'année dernière, 2012, j'ai fait un court vidéo. C'est rien à voir avec la ville, Shanghai. D'ailleurs, mon ami Daniel, notre ami Daniel, elle est là, elle fait le son. Et c'est là, en ce moment, je travaille avec le Sangat pour un projet sur la ville, mais pas vraiment Shanghai. Pas Shanghai, rien à voir. Aussi pour une exposition en septembre au Sangat.
D'autres questions? Oui.
On sait que même si en Chine, il n'y a pas de plus de liberté de parole, mais on a toujours trouvé un moyen de s'exprimer. Comme en littérature, on parle double langage. Et sur l'internet, il y a un filtrage des mots sensibles, mais on reconstruit des mots. Je ne sais pas, comme dans la pratique cinématographique, est-ce que vous avez des stratégies comme ça pour montrer votre film?
J'ai un ami, pas moi, vidéaste, il vit à Pékin. Par exemple, j'ai un ami vidéaste, lui il a fait par exemple un travail, c'est il exprime avec des mots, on dit quoi, des mots que les aveugles qui voient, oui pareil, oui, et il le met partout, comme ça il exprime dans la ville. J'aime beaucoup ce travail. Donc ça dépend. Oui, c'est vrai qu'on peut exprimer, mais certaines manières, comment on peut échapper, on peut éviter, comme et en même temps on s'exprime, quoi. En même temps les gens ils comprennent, ouais. C'est comme un jeu, c'est comme un jeu. Je trouve, par exemple, il y a un Facebook chinois en Chine, s'appelle Weibo. Des mots, c'est toujours sensible. Si tu mets quelques mots sensibles, c'est très sensible. Si tu mets quelques mots sensibles, tout de suite, il disparaît. C'est très magique. Peut-être dans 2 heures, 3 heures après, bien sûr, des mots très sensibles, c'est tout de suite, mais des mots qu'on jouait dedans, c'est plus tard. On m'a dit qu'il y a 4000 personnes qui travaillent pour ce Facebook qui supprime des annonces tous les jours. Ouais. Donc c'est un jouet. C'est, en même temps, c'est triste et c'est drôle parce que comment on peut jouer dedans, ouais. Comment on peut exprimer encore dedans avec ce média, ouais. ou d'autres choses, vidéo, littérature. Mais si on exprime vraiment direct, ouais, c'est vraiment parfois pas drôle. Ouais. Ça peut arriver. Par exemple, mon ami, qu'il a fait ce travail qui avec des mots aveugles, il m'a dit qu'il ne peut pas aller à l'étranger. Il peut, mais il doit appeler un numéro. Qu'il ne connaît pas pour dire que je dois aller où, quand, et je vais retourner quelle date. Et puis quand il retourne, il doit encore appeler ce numéro pour dire là, je suis arrivé à Pékin, je suis là. C'est le policier qui l'a donné ce numéro.
Mais justement, vous ne croyez pas que aussi le virtuel, le langage à travers lequel vous exprimez, donc la 3D, etc., ça soit aussi une façon de détourner un peu la réalité tout en mettant quand même l'accent où ça fait mal, parce que même des films, enfin même les images où il n'y a pas l'élément documentaire et qu'il y a uniquement le virtuel, elles sont peut-être encore plus réelles que les images que vous avez vraiment prises dans la rue. Donc c'est aussi une façon détourner peut-être de s'exprimer.
Oui, en fait, par exemple, Shanghai, la vidéo que vous avez vue, c'est tourné d'abord dans un musée de city planning pour le futur à Shanghai, c'est très connu, à côté de mairie de Shanghai. C'est pour juste montrer à touristes pour montrer le futur Shanghai. S'il y a un tour qui va partir, on met un tour. Si dans 2 ans, ça va être là, il change le plan. C'est un très grand plan, plus grand que cette salle. Du coup, j'ai filmé dedans. Ce sont des images 3D de vidéos qu'ils ont fait. C'est un écran de 360 degrés. Oui, c'est vraiment impressionné de voir tout ça, c'est beau, même qu'il parle en chinois et la musique, c'est pour dire, c'est une fantaisie. Et puis je filmais quelques tours de la rue. Oui, c'est vraiment comme ça, c'est ce qu'on montre pour les touristes ou des gens. Des étrangers, c'est vraiment comme ça qu'on voit, mais c'est quoi qui est sous cette construction, qui est sous ces tours, c'est quoi qui est under cette construction. Donc je fais un troisième film qui montre comment les gens ils le vivent. ouais, qu'une vision plus, pour moi, une vision différente que le média chinois, le média en Chine qu'on voit. Quoi.
D'autres questions dans la salle? Alors, j'ai une peut-être dernière question par rapport au... on a parlé du lyrisme aussi comme façon pour renouer avec, toujours le côté imaginaire de Shanghai, donc un lyrisme assez net dans votre film, mais en même temps un lyrisme aussi qui est présent aussi dans vos films et qui est exprimé finalement par une esthétique très très forte de ces images qui prend presque un arrière-goût de désolation, de tristesse face à cette non-considération du passé de la ville. Alors, j'ai l'impression que ce soit une tendance assez actuelle chez les cinéastes contemporains aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Ce manque de considération, bon, que ce soit des cinéastes shanghaïens, c'est ce manque de considération vis-à-vis du passé de la ville, que ce soit d'autres vis-à-vis du passé, quelque part, de la Chine. On assiste vraiment à une déconstruction et en même temps à une désolation vis-à-vis de cette déconstruction. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment?
Pardon, le sentiment de
cette déconstruction par rapport à... Il y a d'autres cinéastes qui ont mis au pied de Tavien, il y a Yann,
Les cinéastes plutôt pour Wang Kai-wai ou qui montent des Shanghai. Oui, oui. Aujourd'hui, tendance de quoi?
Est-ce que cette déconstruction, cette désolation vis-à-vis du passé finalement de la ville qui n'existe plus et donc vis-à-vis de la Chine qui est en train un peu de perdre son allure de pays un peu mythique, est-ce que ça se retrouve dans d'autres cinéastes que vous?
Parce que en fait je pense que chaque cinéaste ou directeur, ouais, chaque cinéaste, ils ont différentes visions de vue. En plus, on n'est pas vit dans la même ville, on n'est pas la même histoire, mais on a quand même des histoires en commun. Et puis, je pense que Mais on est toujours dedans. Donc, on est dans un monde qui est en train de développer, qui est en train de changer. C'est comme une fiction qu'on est dedans. Et je pense que c'est tellement fort. Même quand on a certaines visions différentes, on voit des choses différentes. Il y a toujours une tasse qui est pareille. Ouais, sauf que les cinéastes aujourd'hui qu'on travaille pour parce qu'il y a certains cinéastes que j'aime beaucoup avant, mais aujourd'hui avec beaucoup de l'argent ça change avec parce que l'État il paye pour pour réaliser des choses que l'État il veut voir. Donc ça change avec capitaliste.
Le mot de la fin, vous voulez dire quelque chose sur...
Non, juste ma
m'interroger sur est-ce qu'on peut vraiment parler de lyrisme de la désolation, parce que ça me paraît tout à fait bien convenir le terme de désolation, même au sens benjaminien du terme, de la catastrophe, de tout ça. Et j'ai du mal à. Mais c'est pas du tout, certainement pas une critique, parce que. Pour moi, c'est pas du lyrisme.
C'est une façon, c'est-à-dire que quelque part, le fait de vouloir un peu montrer la fin d'un mythe s'apparente toujours à une forme un peu lyrique. Après, vu dans la réalité, et puis surtout vu effectivement le travail et les images que nous avons vues, c'est vrai que c'est plus, on est là plus dans le concret que dans autre chose. C'est un peu le contraste aussi de Shanghai. Oui. C'est le fait de, je ne sais pas si Jen Chen est d'accord avec moi, le fait de, il n'y a pas, et d'ailleurs même dans toutes ces images que nous avons vues, que ce soit votre film, que ce soit les films de Jen Chen, on n'a pas vu une seule image, un seul visage de Shanghai qui puisse avoir une et qui surtout puisse s'imposer sur un autre. Donc on a plutôt l'impression, et ça c'était un peu toujours le destin, et c'est peut-être le destin encore aujourd'hui de Shanghai, on a l'impression que le vrai visage de Shanghai se trouve toujours entre deux réalités qui sont toujours en contraste. Donc le rêve et la réalité, le mythe et la désolation qui est du mythe. Donc toujours ces doubles finalement, ces doubles images, cette double identité. Et c'est la raison pour laquelle je crois que plus je trouve très intéressant cette façon de Jen Chen de l'approcher. En mêlant des images purement documentaires avec des images en 3D. C'est peut-être comme ça qu'on peut essayer de cueillir un peu le si pas la réalité de cette ville, au moins ce qu'elle peut évoquer. Donc un peu son aspect imaginaire, justement, comme c'est le terme et le thème de ce soir. Est-ce que le public a d'autres considérations par rapport à cette ville, ou alors on peut passer aux conclusions? On peut dire que finalement, puisqu'on a évoqué ce terme de la dualité, on va pouvoir dire, je pense que c'est un peu le lieu du travail, puisqu'on a vu avec les métiers que nous avons vus dans votre film, les métiers dont la dame parlait aussi tout à l'heure, et en même temps le lieu de la transgression, comme c'était le cas dans une certaine littérature, et comme Albert Londres a longuement évoqué dans ses romans. L'espoir, on l'a pas trop vu, mais bon, on sait qu'on garde toujours l'espoir en Chine, quoi qu'il arrive, et la désillusion, le déracinement, et en même temps les souvenirs. Les souvenirs d'un passé qu'apparemment Gentio montre comment c'est difficile, comment c'est triste de ne plus finalement l'avoir, et puis bien évidemment celui, la dualité que tout le monde connaît par rapport à Shanghai, la modernité et la tradition. Donc on peut dire, comme en guise de conclusion, que l'imaginaire de cette ville est finalement composé d'un kaléidoscope d'identité qui se juxtaposent et qui n'ont pas encore fini de nous étonner, et qui vont, à mon avis, encore rendre l'image de Shanghai à travers différents styles des cinéastes, que ce soit à travers un style finalement qui renoue avec une manière de filmer un tout petit peu plus classique, qui se rapproche du mythe, de la littérature, etc., ou quelque chose qui se rapproche encore plus de la modernité avec les procédés stylistiques 3D et qui mêle documentaire et virtuel. C'est peut-être finalement une somme de tout ça qui va pouvoir nous permettre de toucher un tout petit peu l'imaginaire. Voilà. Voilà les conclusions. Merci. Et merci bien évidemment à nos deux invités et à leur film qu'on a eu le plaisir de voir ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée.